Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission consacrée au jeune prodige des lettres américaines, Jonathan Safran Foer, avec lequel nous allons avoir la chance de passer cette heure. Bonjour, Jonathan Safran Foer.
Hello.
Jeune prodige, j'ai dit, je peux encore dire jeune à 40 ans.
To some people, I'm young. To some people, I'm old.
Pour certains, je suis quelqu'un de jeune. Pour d'autres, je
suis vieux. I used to be the youngest person in every
J'étais
room.
Le plus jeune dans chaque pièce où je me trouvais, mais
now I often find myself
maintenant, je me retrouve
somewhere in the middle.
Quelque part au milieu.
Alors, il y a 15 ans, vous débouliez en littérature avec vos petites lunettes que vous portez toujours. Vous sortiez de l'université de Princeton. Vous aviez suivi les cours de Creative Writing de Joyce Carol Oates, que nous avons eu la chance d'interviewer la semaine dernière pour France Culture. Elle avait, Joyce Carol Oates, déjà remarqué votre talent. Elle ne s'était pas trompée, car votre roman Tout est illuminé a fait assez vite l'objet d'enchères considérables parmi les éditeurs et paraissait en 2002 sous le beau titre, je l'ai dit, de Tout est illuminé. Un extrait de ce livre paraissait même dans le New Yorker. C'était l'histoire d'un jeune juif américain qui voyageait en Ukraine pour retrouver la femme qui avait sauvé son grand-père du génocide. Et alors que vous étiez débutant, ou presque, vous vous retrouviez propulsé au firmament des auteurs qui comptent et salué par des gens comme Russell Banks, comme Jeffrey Eugenides ou Pietro Citati qui avait écrit dans la Repubblica « Parfois, il suffit d'un seul livre pour effacer nos doutes » sur la littérature d'aujourd'hui. C'était important alors pour vous, Jonathan Safran Foer, ce genre d'adoubement, d'être adoubé par des confrères plus âgés qui avaient déjà fait leurs preuves?
Well, it wasn't important in the sense of my
C'était
pas seeking it or wanting
important
it.
Du point de vue de...
I don't know that
je ne l'avais pas recherché, disons.
Imagined that I would write a book.
Je n'imaginais pas que j'allais écrire...
That
un livre,
said,
c'était pas dans mes ambitions, c'était pas dans mes rêves, mais cela dit,
of course it meant a lot to me.
Bien know, sûr que ça a signifié beaucoup pour moi.
Il ne
faut jamais croire quelqu'un qui dit qu'il est indifférent aux louanges ou aux critiques. Ce serait un sociopathe s'il y avait quelqu'un comme ça.
Mais est-ce qu'il y avait aussi l'idée d'entrer dans une sorte de confrérie ou de famille? C'était des écrivains qui saluaient le talent d'un jeune écrivain qui apparaissait.
No, I wasn't aware of that at all. And
non, je n'étais pas du tout conscient de ça. C'est une conception erronée de ce que l'écriture new-yorkaise est, ce que l'écriture brooklynienne est, comme si c'était un club ou un village. J'ai des amis qui sont écrivains. J'ai beaucoup plus d'amis qui ne sont pas écrivains. Je passe une partie de mon temps à écrire et une partie plus grande de mon temps à ne pas écrire. C'est parmi les choses les plus importantes de ma vie. Mais c'est une des choses parmi les plus importantes de ma vie.
Alors, 3 ans plus tard, vous renouveliez l'exploit avec Extrêmement fort et incroyablement près, l'histoire extrêmement émouvante d'ailleurs, d'Oscar Schell, un petit garçon de 9 ans dont le père a trouvé la mort dans les attentats du 11 septembre et dont le deuil se transforme en véritable quête initiatique dans les rues de New York. C'était votre façon de témoigner sur cet événement qui a marqué la ville où vous vivez, Jonathan Safran Foer. Et d'ailleurs, est-ce que l'empreinte est toujours vive, l'empreinte du 11 septembre, sur l'imaginaire de cette ville, ou est-ce que ça s'estompe un petit peu?
Très difficile à dire, parce que je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question. Moi, je vis à Brooklyn. C'est différent de vivre à Brooklyn et à Manhattan. C'est comme vivre dans le bas de Manhattan et dans le haut de Manhattan. Donc, sur le 11 septembre lui-même, 2001, l'expérience des gens qui étaient dans la ville basse, c'est-à-dire en dessous de Canal Street, c'est totalement différent de ce que c'était ailleurs. Et ailleurs, les gens continuaient de vivre leur vie, continuaient à déjeuner. C'était une des choses qui est très intimidante au sujet de New York. Et une des choses aussi les plus inspirantes, c'est la vitesse à laquelle elle renaît à chaque instant. Notre restaurant favori est remplacé par une boutique de fringues et la boutique d'à côté qui était un restaurant italien devient un restaurant coréen. Les noms changent, les parcs apparaissent, disparaissent. Chaque semaine, nous avons le plus grand bâtiment de la ville. C'est pas une ville qui a une longue mémoire. Et de ce point de vue-là, c'est exactement le contraire de Paris.
Vous viviez à Brooklyn au moment du 11 septembre, déjà ?
Non, j'habitais à Queens, qui est un des cinq autres quartiers de New York. Je vivais à Queens. Cinq ans après avoir été diplômé, et vous parlez de communauté littéraire, moi j'étais le seul écrivain qui vivait à Queens. Et à un moment, vous savez, il y a une migration aux États-Unis. Quand on arrive à un certain âge et qu'on est juif, on passe de New York en Floride. Et quand on devient d'un certain âge en tant qu'écrivain, et ben il semblerait qu'on déménage à Brooklyn.
Vous viviez dans le Queens, Jonathan Safran-Foer. Vous nous disiez que c'est totalement différent. Le jour du 11 septembre, quand on est dans Manhattan et quand on était à Brooklyn, il n'empêche que vous avez tenu à écrire sur cet événement. Et je vous demandais tout à l'heure, est-ce que c'était aussi une manière de porter témoignage de cet événement ou quelque chose de totalement différent?
Je ne suis pas sûr que je voulais écrire sur ce sujet. Je ne suis pas certain d'ailleurs de réussir à écrire sur les choses que je veux dire. Parfois j'y arrive. Parfois c'est des bonnes idées ou des histoires intéressantes ou prometteuses. Quelque chose de nouveau ou d'important. Le problème c'est que mes plans ne sont jamais aussi bons que ce que je pense être. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans la marge, qui m'intéresse. Je suis distrait, je tombe sur quelque chose. Et les résultats de cette distraction et de ces chutes, en quelque sorte, eh bien, sont beaucoup plus intéressantes que mes plans originaux.
Il y a
Joseph Brodsky qui dit une chose extrêmement intéressante. Il dit que la rime est plus intéressante que le poète lui-même. Et ce qu'il voulait dire, c'est que les gens écrivent en vers, pas simplement parce que c'est beau, mais aussi parce que quand ce qu'il faut terminer un vers par la rime, eh bien, on a créé une sorte de problème. Et le problème ne vous permet pas de faire ce que vous voulez faire. Vous ne dites pas les choses de la façon la plus naturelle. Et la solution à ce problème est quasiment toujours plus riche, plus profonde et plus valable que les choses que vous auriez faites si vous aviez fait ça de votre plein gré. Voilà. Dans ma vie, je ne suis pas terriblement intéressé par mes propres trucs. Je suis intéressé par les accidents qui m'améliorent au fur et à mesure du temps et qui font que les choses arrivent, adviennent.
Est-ce qu'on est là, Jonathan Safran-Foer, dans une sorte de théorie de l'inspiration? C'est-à-dire que la volonté de l'auteur est éclipsée finalement par quelque chose, vous appelez ça des accidents, qui viennent d'ailleurs. C'est l'inspiration presque antique, l'enthousiasme, comme disaient les Grecs anciens, les dieux qui viennent en vous.
Dieu ne vient jamais à moi. Ce que j'écris, c'est est-ce la volonté de l'auteur? Il y a une différence entre la volonté de travailler pour exécuter vos idées, vos conceptions planifiées, ou la volonté d'entrer dans un processus qui engage votre subconscient. Et ça nécessite autant de travail d'ailleurs, et autant de détermination aussi, mais c'est un chemin différent.
Alors avec ces deux livres, Jonathan Safran-Foer, vous deveniez le Wonder Boy de la littérature américaine, d'autant plus que vous vous affichiez avec Nicole Krause, qui était la Wonder Girl de la littérature américaine. Vous êtes depuis séparés. Et étrangement, le temps passait et on vous voyait revenir avec un livre qui n'était pas de la fiction, « Faut-il manger les animaux ?», à la fois une réflexion sur notre appétit de viande et un récit des horreurs que vous aviez observées pendant 3 ans d'enquête dans les élevages industriels et les abattoirs. Après avoir lu votre réquisitoire, on ne savait pas trop d'ailleurs si on devait se sentir coupable, mais en tout cas, on ne pouvait plus dire qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau roman sur le couple, sur la désagrégation d'un couple. « Me voici », c'est le titre en français, qui paraît aux éditions de L'Olivier, qui est traduit de l'anglais américain par Stéphane Rock. Presque 10 ans après, faut-il manger les animaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en aviez marre de la fiction?
Vous savez, ce n'était pas aussi longtemps. Quand les gens me posent la question « qu'est-ce qui s'est passé ?», je me dis « la vie !» Que s'est-il passé pendant les 25 premières années de ma vie qui m'ont empêché d'écrire mon premier roman? Ça prend du temps. Et il y a des choses que je pouvais désigner, je pouvais dire j'ai eu 2 enfants, je pouvais dire que j'ai écrit quelque chose qui n'était pas de la fiction, je travaillais sur beaucoup d'autres projets, ce seraient des excuses. La réalité, c'est qu'il n'y avait rien que je n'ai trouvé qui valait la peine d'écrire. J'écris différemment de la plupart de mes collègues, parce que ce n'était pas mon rêve d'être écrivain, finalement. Ce n'était pas, et ça n'est pas, mon ambition d'écrire un certain nombre de livres ou d'écrire une suite de livres différents. Beaucoup de mes amis qui sont écrivains pense à chaque livre comme une expérience, comme un projet. Avec tel livre, je vais écrire une nouvelle de guerre. Avec tel livre, je vais écrire un roman d'amour. Avec tel livre, je vais écrire quelque chose dans le genre pop. Quand moi j'écris, j'ai une petite voix qui me dit « ça, c'est le dernier livre que tu vas écrire ». Et je ne parle pas dans le sens dramatique « je vais mourir après » ou dans le sens dramatique où « je n'écrirai jamais plus rien ». Mais de façon très simple et claire, la personne qui écrit ce livre-là n'écrira jamais plus un autre livre. Quand je considère les livres que vous avez nommé précédemment, que j'ai écrit. Tout est illuminé. Faut-il manger des animaux? Je sais que c'est moi qui les ai écrits. Je vois mon visage sur la 4e de couvre, mais je me sens très loin de ça. Tout comme je sais que dans quelques années, je regarderai ce livre avec beaucoup de distance. Mais voilà. C'est ma raison d'écrire. En partie pour raconter une bonne histoire. En partie pour décrire des personnages intéressants ou d'écrire quelque chose de politique ou de beau. Mais finalement, ce sont des actes d'auto-expression.
Non, je vous demandais ça sur votre rapport à la fiction parce que j'avais lu à l'époque cette phrase de vous. Il y a bien de l'imagination dans ce livre, faut-il manger les animaux, mais c'est celle des gens qui fabriquent la viande industriellement. Si j'avais écrit un roman, on l'aurait pris par un roman de science-fiction, tant les gens qui organisent ce système déploient une imagination folle pour arriver à leur fin. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas là un aveu d'impuissance du roman par rapport à la réalité qui dépasse le roman, qui dépasse la fiction?
Posez la question, est-ce que le monde est plus, qui a plus d'imagination que les écrivains, que les romanciers? Oui, certainement, aux États-Unis, les choses sont devenues surréelles, au point qu'il est difficile de les croire. Mais la façon dont je le vois, c'est pas le but de la littérature d'être surréel. C'est pas aux écrivains d'avoir de l'imagination. La littérature doit simplement être authentique. Et l'authenticité prend parfois la forme du réalisme magique. Parfois, ça prend la forme de mythologie. Parfois, la forme de la poésie d'avant-garde, et parfois ça prend la forme du réalisme social. Mais chacune de ces formes tente de faire la même chose, c'est-à-dire de parler des choses que nous vivons, des choses qui nous apparaissent claires, mais qui sont aussi des révélations.
Pourquoi vous disiez, même si j'ai une petite idée, mais je voudrais que vous nous en parliez un petit peu, que les choses devenaient surreal, surréelles, surréalistes aux États-Unis?
Dans beaucoup de façons, beaucoup de manières. Qui aurait pu imaginer que nous en serions là, nous en sommes aujourd'hui? Je dirais que même après la réalité de l'élection, c'était confirmé.
Ouais.
Est-ce qu'il y en avait un autre?
Non, je précise.
Même après l'élection, beaucoup de gens étaient dans une situation de déni. Et la personne qu'il est, lui, en littérature, ça veut dire que ça défie l'imagination. Mais nous vivons dans un monde où les informations arrivent tellement rapidement et de façon tellement fréquente, des choses qui, par le passé, seraient restées dans nos consciences pour une semaine, un mois, plus longtemps, des choses extrêmes qui auraient pu mettre un terme à la carrière d'un homme politique, sont tout simplement remplacées par un autre article, par quelque chose de plus inhabituel. Bien finalement, lui a été le bénéficiaire de ce volume de mauvaises nouvelles.
And it has a quality of surreality.
Et ça a un caractère surréel.
Il ferait un bon personnage de fiction, ce personnage réel, ou est-ce que, comme on dit en français, les ficelles sont trop grosses?
It's not necessary because he is his own.
C'est pas nécessaire parce que c'est son propre personnage dans le roman que malheureusement nous sommes tous en train de lire. Si quelqu'un l'avait écrit il y a quelques années, ça, ça aurait été un bon roman. Un roman qui aurait gagné quelques prix. Mais là, c'est un et un de trop.
On va marquer une pause, Jonathan Safran-Foer, avant de plonger dans votre nouveau roman, Me voici, qui paraît aux éditions de L'Olivier, et dans votre travail de romancier aussi, mais... D'abord, on écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi un titre du groupe Pavement. Here, on écoute tout de suite. I was dressed for success, but success it never comes. And I'm the only one who laughs at your jokes when they are so.
Écrivain par Christophe Onodibio.
Pavement, c'est le choix de Jonathan Safran-Foer qui publie aux éditions L'Olivier son nouveau roman Me voici, Here I Am, traduit de l'anglais, donc des États-Unis, par Stéphane Rock, et j'en profite pour saluer Michel Zlotowski qui vous interprète Jonathan Safran-Foer. Pourquoi Pavement?
I think they were the first.
Je crois que c'était le premier groupe de rock qui m'a obsédé en premier. J'étais obsédé par ce groupe parce que c'était le groupe favori de la première fille qui m'a obsédé. J'ai pris sur moi, en quelque sorte, d'apprendre absolument tout sur eux, de voir toutes leurs performances, de mémoriser toutes leurs paroles, pas parce que je les aimais tellement, mais parce que c'était une preuve pour la dévotion pour autre chose, pour quelqu'un d'autre. Et finalement, ils sont devenus mon groupe favori. Il y a ces choses là parfois, que ce soit des groupes, des livres, des films, qui nous guident à travers l'adolescence, qui nous guident vers l'âge adulte,
et
qui était plus formateur qu'avec toute autre chose pour le reste de nos vies. Si vous êtes comme moi, et je pense que tout le monde est semblable de ce point de vue-là, on peut avoir des sentiments plus mûrs, matures, plus riches en vieillissant ou en grandissant. Mais vous n'aurez jamais des sentiments plus puissants que lorsque vous êtes adolescent. L'anatomie, la chimie de notre esprit, c'est ça.
Et
quand on tombe amoureux avec l'art, à cet âge-là, c'est pas nécessairement d'une façon très élaborée, c'est pas obligatoirement durable, mais c'est terriblement puissant.
Vous écrivez en musique pour vous mettre en train dans l'écriture, la musique est importante ?
Non.
Je
sais pas comment les gens font ça. Il y a déjà tellement de choses auxquelles il faut résister quand on écrit, précisément à son propre esprit, et qu'en plus d'avoir une autre voix contre laquelle lutter, ça serait trop difficile pour moi.
On résiste à quoi ? Vous avez dit, on a tellement de choses contre lesquelles on doit résister quand on écrit, des choses qui viennent de nous.
Il y a beaucoup de résistances. La première, c'est la résistance de mes propres plans. L'accent sur le contrôle et sur les résultats. Mais je crois qu'il y a aussi une résistance qui est nécessaire à l'encontre d'un certain questionnement. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est malin ? Est-ce que c'est intelligent ? Et la pire de toutes les questions, c'est à quoi ça sert ?
What's the point, précisément ? On va parler de Me voici, Jonathan Safran-Foer. C'est l'histoire d'un mari et d'une femme qui sont mariés depuis plus de 15 ans, Jacob et Julia Block, qui ont entamé leur quarantaine, voilà, comme vous, et dont le couple va se dégrader, non sans un humour corrosif, qui est votre marque de fabrique. Lui, il est écrivain, elle, c'est une architecte, ils habitent Washington avec leur chien, Argos, et leurs trois fils. Entre eux, le désir s'est émoussé, et lui passe son temps sur les annonces immobilières. Ils se sont usés dans le confort, leur voiture, leur lavabo à double vasque, qui m'a fait penser, vous savez, dans l'Antiquité, quand les oiseaux passaient de la gauche, les aruspices, les devins, disaient « Ah là là, c'est mauvais signe !» Eh bien, ce lavabo à double vasque, on sent qu'il va apporter des malheurs à ce couple. Julia va découvrir, et les choses vont empirer, des SMS érotiques que Jacob envoie à une collègue de travail sur un deuxième téléphone. Et puis leur fils, à la veille de sa bar mitzvah, est accusé d'avoir couché sur le papier des insultes racistes sur fond de crise au Moyen-Orient. Car, parallèlement à ce couple qui se disloque, Israël est menacé d'être détruit dans votre livre. Alors c'est un gros livre, plus de 740 pages, mais c'est drôle, c'est bondissant, les dialogues vraiment flamboient. C'est très impressionnant, parfois très beau, parfois très triste aussi. C'est une histoire de couple, on pense à Bergman, on pense à Cassavetes aussi, j'ai pensé à James Salter, l'humour en plus, mais pas la cruauté en moins. Et je pensais à cette phrase d'Ambrose Pierce, dont il est question d'ailleurs dans votre livre, « L'amour est une maladie dont le mariage nous guérit ». Est-ce que ça reste le sujet royal pour un romancier, le couple, l'amour, le mariage, et encore mieux quand ça se passe mal ?
You know, it's the book about...
Est-ce que le livre porte sur le mariage ? D'une certaine manière, oui.
I think more it's about
Je pense que
institutions.
C'est plus sur les institutions.
Marriage is a kind of institution.
Le mariage étant une sorte d'institution.
Family is an institution.
La famille est une
Religion
institution.
Is an institution.
La religion en est une autre.
Our nations are kinds of
nos
institutions.
Nations sont des types d'institutions.
Our professions are institutions.
Nos professions, nos métiers.
And the ways that institutions
Et la façon dont
can either
les institutions peuvent
bring us closer to
nous rapprocher
or take us away from
ou nous éloigner
that we believe ourselves to be.
Des gens que nous pensons être nous-mêmes.
Qu'est-ce qui a déclenché ce nouveau livre ? Est-ce qu'on doit y voir aussi, pardon pour la question, mais ça expliquerait peut-être que vous soyez revenu finalement à la fiction. Est-ce qu'on doit y voir aussi des traces de votre divorce avec Nicole Krauss pour expliquer qu'après votre livre sur la viande insoutenable, vous soyez passé à l'histoire d'un couple où la chair ne semble plus avoir de saveur ?
Non. Really, no.
Non, vraiment pas.
I can understand why one would
Je peux comprendre
read it that way. In a way,
pourquoi est-ce qu'on pourrait le lire comme ça. C'est difficile de ne pas le lire comme ça, effectivement. Mais
this book is not autobiographical
ce livre n'est pas autobiographique au sens où les événements correspondraient à des événements de ma propre vie. Mais dans un sens différent, c'est un livre duquel je me sens beaucoup plus près que mes autres livres. Et je le prends plus à cœur. Je ne me sens pas comme Jacob. Mais je me sens un petit peu comme Jacob, un petit peu comme Julia, un peu comme les enfants. Et comme les grands-parents. C'est le premier roman que j'ai écrit à la troisième personne. Mes deux premiers avaient des narrateurs extrêmement forts à la première personne. Alex, le traducteur dans mon premier livre. Oscar, le garçon dans mon second livre. Et tous les deux avaient des perspectives extrêmement puissantes, des voix extrêmement puissantes. Ce livre-là est narré à la troisième personne, mais une troisième personne qui n'est pas sans passion ou invisible, mais une troisième personne qui a une sensibilité également. Et c'est une sensibilité qui est plus proche de la mienne. C'est le premier livre que j'ai jamais écrit où les gens qui me connaissent m'aient dit « Ah, ça sonne comme toi ».
Je voudrais lire un extrait, Jonathan Safran Foer, pour nos auditeurs. Il y a énormément de dialogues, on va en parler. C'est vraiment parfois uniquement des dialogues. Et c'est une scène entre Jacob et Julia sur est-ce qu'on doit se cacher des choses dans le couple ou non. « Qu'est-ce que tu me caches en ce moment ?» lui demanda-t-elle, presque avec insouciance. « En ce moment, rien. Mais tu m'as déjà caché quelque chose. Donc je suis. » Elle rit. Elle aimait sa vivacité, la chaleur étrangement réconfortante des connexions que faisait son esprit. « Quelle est la dernière chose que tu m'aies cachée ?» Il réfléchit à la question. C'était plus dur de réfléchir en étant défoncé, parce qu'ils sont en train de fumer un pétard, mais plus facile de partager ses pensées. « Très bien, fit-il, c'est un petit truc de rien du tout. Dis-moi les tous. Ok, on était à l'appart l'autre jour, c'était mercredi peut-être, et je t'ai préparé le petit-déj. Tu te souviens ? La frittata aux chèvres. » « Oui, répondit-elle, une main posée sur la cuisse de Jacob. C'était mignon. Je t'ai laissé dormir et je t'ai discrètement préparé le petit-déj. » Elle souffla une colonne de fumée qui conserva sa forme plus longtemps qu'il ne semblait possible et dit « Je mangerai bien une tonne, là. Je l'ai fait parce que je voulais te dorloter. C'est l'impression que j'ai eue, remarqua-t-elle en remontant la main sur sa cuisse, ce qui le fit bander. Et j'ai soigné la présentation dans l'assiette, cette petite salade sur le côté. Comme au resto, dit-elle, prenant sa bite à pleine main. Et après ta première bouchée, oui ?» C'est pas pour rien que les gens se cachent parfois des choses. On n'est pas n'importe quel genre. Bon. Bref, après ta première bouchée, au lieu de me remercier ou de dire que c'était délicieux, tu m'as demandé si j'avais salé. Et alors, demanda-t-elle, son poing faisant un mouvement de va-et-vient. Et alors, c'était horrible. Ça m'a contrarié ou déçu. Quel qu'ait été mon sentiment, je ne l'ai pas partagé. Mais ce n'était qu'une question toute bête. C'est agréable. Très bien, mon amour. Mais est-ce que tu comprends, vu l'effort que j'avais fait pour toi, que me demander si c'était salé était plus une critique qu'un compliment ? Tu vois ça comme un effort de me préparer le petit-déj ? C'était un petit déjeuner spécial. Et ça, c'est agréable ? C'est incroyable. On dirait plutôt qu'il faut que je garde ma blessure pour moi, ta déception. Je pourrais déjà jouir. Alors vas-y, jouis. Je ne veux pas tout de suite. On voit bien là, je choisis ce passage, ils sont en train, c'est une scène, c'est magnifique, à la fois drôle et triste aussi, scène de dispute, de tension dans le couple. et en même temps de sexe. Le dialogue, et précisément dans ce livre-là, c'est devenu votre jouet narratif préféré, Jonathan Safran-Foer.
I didn't used to write very much dialogue.
Je n'avais pas l'habitude d'écrire beaucoup de dialogues, principalement dans mes deux premiers livres. Il y a eu un moment, avant l'écriture de ce livre, où je travaillais sur un show télévisé pour HBO, qui, à l'évidence, nécessite l'écriture de beaucoup de dialogues.
Et
j'en suis venu à me rendre compte, ou j'étais contraint de me rendre compte, à quel point j'aimais ça. J'aimais le rythme, l'efficacité.
And the ways that it can, you know, cut very deeply, very quickly.
Ça peut véritablement se répondre très rapidement, très profondément.
Quite long.
Et ce livre est assez long.
But it's also quite quick, I think.
Mais ça va assez vite, hein, c'est rapide à lire.
Long stretches of it are,
parce que des grandes parties sont deux personnes qui parlent dans des cuisines, dans des chambres à coucher, dans des salles de bain.
Et vous voulez liser, justement, on parlait de musique tout à l'heure, vous voulez liser ces dialogues pour voir comment ça sonne, pour les retravailler, comme Flaubert, hein, façon gueuloire de Flaubert.
I read everything.
Je lis tout. Je me lis tout.
I don't know if you're this way,
je ne sais pas. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais
my understanding is that most
ma compréhension, c'est que la plupart des gens, quand ils lisent, se lisent les choses à eux-mêmes en silence, mais ils entendent quand même la voix. Donc, quand vous regardez le mot « green », « vert », vous entendez le mot. Et c'est très, très difficile de lire sans entendre en même temps le mot. Et en fait, un des secrets de la lecture rapide, apparemment, c'est de ne pas entendre le mot dans sa tête. Et il y a une technique que les gens qui pratiquent la lecture rapide, c'est de mâcher du chewing-gum pendant qu'ils lisent, parce que ça envoie un signal au cerveau que votre bouche ne peut pas être utilisée pour former des mots parce que vous mâchez de la gomme. Et donc votre esprit sait qu'il ne doit pas lire en silence. Et donc ainsi, vous pouvez lire beaucoup plus vite. Et donc quand je ne mâche pas de la gomme, et quand j'écris, je ne mâche pas de la gomme non plus.
Mais
quand j'écris plutôt, oui, je lis à haute voix. Et c'est une façon de savoir de mieux connaître les mots de façon plus intime.
Alors il faut qu'on dise un mot de ce titre, hein, « Me voici ». Alors on se dit au départ, ça y est, Jonathan Safran-Foer veut nous dire « I'm back ». Je suis de retour, de façon un peu Rastignac bien élevée, qui disait « à nous deux Paris ». Et bien voilà, à nous deux lecteurs, je suis revenu à la fiction et on va voir ce qu'on va voir. Et puis on pense aussi à votre héros dans « Extrêmement fort et incroyablement proche », en fait au père du héros, au père du petit Oscar, qui posait à son fils sur le répondeur de la maison avant de se jeter dans le vide d'une tour d'un certain 11 septembre. « Are you here ?» Mais en fait, non. Le « Here I am » n'est pas non plus un écho à ça. Vous avez expliqué, hein, c'est biblique. « Me voici », c'est la phrase que prononce Abraham quand il doit sacrifier son fils Isaac dans le récit biblique. « Dieu mit Abraham à l'épreuve et il répondit « Me voici ». Qu'est-ce qui vous a pris de prendre une parole si forte de la Bible pour la mettre en titre d'une histoire qui raconte comment un couple se fracasse, comment un mariage se détruit?
Well, it's just one. I mean, I'm looking at a bookshelf right now, and I'd be surprised.
Je regarde ici des rayons de livres.
10 or 20 or 30% of the books.
Je me demande si 10, 20 ou 30% des livres ou plus ont ou n'ont pas pris leur titre de la Bible.
In this case, it's one of most well-known stories across cultures.
Je l'ai pris d'une des histoires qui est les plus connues à travers toutes les cultures. C'est l'histoire de la ligature d'Isaac, le sacrifice d'Isaac. Et c'est un moment très, très dur, très poignant, où Abraham répond de la même manière et de façon inhabituelle quand Dieu l'appelle et quand son fils l'appelle. Quelques phrases après, plus loin. Et c'est paradoxal, parce qu'il ne peut pas être à la fois « me voici » pour un Dieu qui veut qu'il tue son fils, et être en même temps « me voici » pour un fils qui ne veut pas mourir. Et ça m'a intéressé
de
ces fragments d'identité que nous avons tous. Vous avez raison, la Bible
hysterical gravity
à une gravité hystérique.
In the year 2017,
et en 2017,
we don't experience life
on n'a pas une expérience de la vie avec des défis de la sorte.
But, mais we have our own, what feel like mais biblical stakes.
Nous avons parfois le sentiment qu'il s'agit d'épisodes bibliques, effectivement, notre vie. Mais nous avons aussi nos propres identités à équilibrer en étant un époux, en étant un individu au monde, entre l'époux et le parent, entre être quelqu'un qui exerce un métier et quelqu'un qui appartient à une famille, quelqu'un, un père ou une mère,
sets of values, you know,
et différents jeux de valeurs.
To be, for example, in
être,
my
par
case,
exemple,
an American
dans mon cas,
citizen,
un citoyen américain,
while also having my own,
et en ayant you
know,
aussi
personal, political beliefs.
Mes positions politiques personnelles.
Something that in France,
c'est quelque chose
being wrestled with in very dramatic ways, like
qui,
paradoxes
en France,
of national
est très bien connu.
Identity.
Ces paradoxes d'identité
paradoxes
nationale,
national
ces paradoxes de culture politique,
to, on the one
ce
hand,
désir d'un
say,
côté
maintain something that is special about
garder quelque chose
French
qui
identity.
Est spécifique à l'identité française,
while on
par
the
exemple,
hand,
et d'un autre côté, en ayant la volonté d'exprimer une politique plus libérale.
Pour parler d'identité précisément et revenir à la littérature, vous avez dit un jour, j'écris des livres très juifs. Qu'est-ce que ça veut dire, j'écris des livres très juifs?
I don't know what I meant.
Je sais pas ce que je veux dire.
Because you said that.
I probably did, but I also probably
j'ai probablement
said it's
dit, mais bon, je sais pas, j'ai peut-être dit le contraire ailleurs aussi. Mm. Hein.
You know, it's funny when I
c'est
gave
drôle parce que
the first drafts of this book to
quand
my
j'ai donné
friends,
les premiers jets de ce livre à des amis,
who I share with in the beginning,
à des amis avec lesquels je partage
au
début de l'écriture,
that I got was,
une des réactions que j'ai eues, c'était
wow,
il y a beaucoup de trucs juifs là-dedans.
So, I was very surprised.
Et moi, j'étais très surpris.
So I have to ask your friends. But not you.
Ils sont pas là.
Non, mais qu'est-ce que c'est un livre juif? Et qu'est-ce que vos amis peut-être voyaient dans cette judaïté du livre?
Une question très intéressante. Quelle différence entre dire ce livre est très juif et ce livre est très français? Si moi, j'étais un écrivain d'une quarantaine d'années vivant en France et que j'aurais écrit mon livre en français,
nobody would take that as proof of it
personne
being a very French book.
Ne dirait que, ah voilà, une preuve, voilà un roman
whereas
français.
The use of,
alors
say, Yiddish
que l'utilisation de quelques mots de Yiddish ou d'hébreu identifie le bouquin immédiatement
if,
comme étant un livre
as a young French writer,
en tant que
book
jeune écrivain français, si j'écrivais un livre qui est situé à Paris ou un livre qui examine
about,
un aspect
French politics or
de la politique
identity,
française ou l'identité française,
it's unlikely that people would hold it up.
N'est pas sûr que les gens diraient
but
de ce livre, il est particulièrement français. Mais ce que je veux dire, c'est la différence entre être juif et être français.
Oui, on peut être juif français aussi. Both.
Well, you can.
Ouais, on pourrait.
But
on peut.
It sort of depends who you ask.
Mais ça dépend à qui vous posez la question.
I think there are French people who might
il y a
actually
des
have
Français
some issues with that.
Qui pourraient avoir des problèmes
we
avec ça.
I mean, it's not a very attractive thing to talk about.
C'est pas quelque chose
thing
qui est plaisant à discuter, mais c'est vrai.
And similarly, there
et
are
de façon similaire, il y a des Juifs
wholly agree with that.
Qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec ça.
A lot of Jews who would say,
beaucoup
what
de Juifs diraient, mais
Jewish?
Qu'est-ce que ça signifie d'être juif?
Live in the Jewish homeland,
ça veut dire vivre
Jewish
dans
language
la patrie juive et parler une langue juive.
Alors précisément, ce livre met sur le même plan romanesque, en tout cas les deux choses se répondent métaphoriquement, la destruction d'un couple juif, et la destruction d'Israël. En quoi était-ce si important de mettre justement sur le même plan, métaphoriquement bien sûr, ces deux cataclysmes en fait, individuels pour les gens qui sont en cause, hein, Julia et Jacob, et ce cataclysme évidemment plus global? Je
ne sais pas si c'était tellement important
ou nécessaire.
J'aurais pu écrire un livre qui ne portait que sur les relations. Et j'aurais pu écrire aussi un livre sur cet événement apocalyptique et qui aurait amené des histoires complètement différentes. Une histoire qui a à voir avec qu'est-ce qui est intérieur, qu'est-ce qui est à l'intérieur du domicile et à l'extérieur du domicile. Qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand.
Et
les confusions et les prix que nous avons à payer pour ces confusions entre ce qui est grand et ce qui est petit.
Mais est-ce que ça vous angoisse, la destruction possible d'Israël? Est-ce que c'était une manière de provoquer une catharsis en écrivant ce que vous souhaiteriez peut-être ne pas voir advenir? Ou est-ce que vous avez un rapport particulier en tant qu'écrivain, justement, identitairement aussi avec Israël? Et je pense à tous vos amis qui vous disent « tu as écrit un roman juif ».
Oui, il y a une angoisse. J'aurais une angoisse en pensant à la destruction de l'Afghanistan ou du Canada ou de la Corée du Nord, d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est une relation spéciale pour moi, parce que j'ai grandi avec l'éducation que j'ai reçue, des grands-parents qui étaient des survivants de la Shoah, j'ai rendu des visites en Israël, comme beaucoup de Juifs américains, et comme beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, de ce point de vue-là. J'ai une relation compliquée avec Israël. C'est un lieu qui est singulièrement spécial pour moi, un endroit que je dois défendre et aussi une vision critique vis-à-vis de ce pays.
Et vos romans sont une forme de playground, de terrain de jeu pour expérimenter, jouer avec cette relation complexe que vous avez avec le judaïsme et votre judaïté et Israël.
C'est une merveilleuse façon de le décrire, oui. C'est comme ça que j'ai senti ce livre. Le livre est plein, rempli, bourré de politique. Et pas simplement de la politique nationale ou religieuse, mais aussi sexuelle et interpersonnelle. Mais le livre ne soutient pas un dossier spécifique ou un parti spécifique. J'ai des amis qui ont lu le livre et qui ont dit « J'ai craint que ce soit encore une fois un dossier à la université entre guillemets contre Israël. » Et en fait, j'ai des gens qui m'ont dit exactement le contraire. Des gens qui m'ont dit « Ah, c'est quelque chose qui parle pour le divorce », d'autres qui disaient « contre le divorce », des gens qui disent « pour Israël, contre Israël ». Mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à Israël ? Il y a vraiment des façons extrêmement diverses et opposées de lire ce livre.
On va marquer une pause, Jonathan Safran-Foer, pour écouter votre deuxième choix musical. Vous avez choisi Sunday du groupe Earl Sweatshirt. On écoute et on revient à votre nouveau roman Me Voici. Et peut-être parlera-t-on un peu de sexe, ou plutôt de la façon d'écrire le sexe et de ce que vous cherchez peut-être à provoquer chez votre lecteur. I know it don't seem difficult to hit you up, but you're not passionate about half the shit that you went to, and I ain't having it, and we both know that. I don't mean to offend you, I'm just focused today, and I don't know why it's difficult to admit that I miss you, and I don't know why we argue, and I just hope that you listen, and if I hurt you, I'm sorry. The music makes me dismissive. When I'm awake, I'm just drifting. I'm not complaining, it's just to say that I stay pretty busy lately, and I could be misbehaving. I just hang with my niggas. I'm fucking famous if you forgot. I'm faithful despite all what's in my face, in my pocket, and this is painfully honest. And when I say it, I vomit. On cloudy days when I'm salty, I play the hate to the logic. State to state for the profit, it ain't a stain on me, nigga. My mama raised me a prophet. I play for dollar incentive, and where I'm walking is studded. And half retarded, I stumble to where she parked when she visit. I grab the bottle and chug it. I see the car in the distance. I know the dark isn't coming for the moment. If I could hold it, you see, it seems that all my dreams got dimmer when I stopped smoking pot. Nightmares got more vivid when I stopped smoking pot. And loving you's a little different, I don't like you a lot. You see, it seems like I'm coming back, I gotta handle business. Vanished to my sleeper seat, left you at Terminal 3. I meet you down at baggage claim in a couple weeks, a fortnight. When you parade my homecoming,
don't cry. You know I can't live in any place I visit. To live and die in LA.
Sunday du groupe Earl Sweatshirt, le deuxième choix musical de Jonathan Safran Foer qui publie Me voici aux éditions de l'Olivier, traduit par Stéphane Rock, très très bien traduit d'ailleurs. Alors, c'est une sorte de scène de la vie conjugale revue par Philip Ross, ce livre, l'histoire d'un couple qui se fracasse sur fond de SMS porno avec une collègue de travail. Évidemment, l'épouse est jalouse, et de destruction en parallèle de l'État d'Israël. Finalement, double cataclysme, on vient d'en parler, destruction d'Israël et destruction d'un couple où il est beaucoup question d'ailleurs de judaïsme. Alors, pourquoi ce choix musical? Je me suis dit que vous alliez choisir Nirvana, moi, parce que Nirvana est présent dans votre livre, notamment la chanson All Apologies, qui aurait été très très bien aussi, Jonathan Safran Foer.
It would. I probably should have chosen that.
Ouais, ça aurait pu aussi.
I picked this Earl Sweatshirt
J'ai
song.
J'ai choisi cette chanson de Earl Sweatshirt.
Simply because it's something I found
Parce
myself.
Parce que c'est quelque chose que j'écoutais dans les derniers mois.
Pavement and here is
C'était
kind of the epitome of nostalgia for me.
C'est une sorte d'épidémie de nostalgie.
A person I once was
qui me
and feelings
renvoyait
I once
à la personne que j'étais autrefois, à des sentiments que j'éprouvais autrefois.
Earl
Sweatshirt, c'est nouveau, c'est une musique différente. C'est comme du rock indépendant, de l'indie rock. C'est très énergique, il y a beaucoup de paroles extrêmement fortes. Moi, j'aime bien ça.
Alors, voilà, c'est vrai que c'est très, très drôle. C'est à la fois la destruction d'un couple et... Il y a beaucoup de blagues aussi. Tu connais la blague sur le couple qui divorce après 80 ans de vie commune? Non. Tout le monde leur demande « Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas il y a des dizaines d'années quand vous aviez la vie devant vous ? Ou pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ensemble finalement ?» Et ils répondent « On attendait la mort de nos petits-enfants. » Voilà, c'est le genre de blague de « Me voici » de Jonathan Safran Foer. Et je voudrais vous demander et citer un autre passage, cette fois-ci qui concerne la sexualité de ce couple, donnée effectivement très importante. Alors c'est un petit peu hard, hein, je prie les auditeurs de France Culture de bien vouloir m'excuser, mais c'est aussi ça, le ton de Jonathan Safran Foer. Alors c'est le moment où Julia découvre en fait que son mari envoie des SMS plutôt porno hein, à une collègue de travail sur un deuxième téléphone dont elle ne connaissait pas l'existence. Donc je cite, c'est Julia qui parle et qui cite l'un de ces SMS. Lécher le foutre qui dégouline de son cul ? Elle rit. Toi ? Un trouillard qui a la hantise des germes ? Tu voulais juste l'écrire, très bien, super. Mais admets qu'il s'agit d'un simulacre. Tu voudrais vouloir une vie sexuelle débordante ? Mais tout ce que tu veux au fond, c'est garder la poussette en cabine dans l'avion. C'est ton aquaphore et même ton existence desséchée où tu as banni les pipes parce que ça t'évite de te tracasser si tu n'arrives pas à bander. Merde, Jacob. Tu emportes partout un paquet de lingettes pour ne pas avoir à utiliser de papier toilette. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui aime lécher le foutre qui dégouline d'un cul. Julia, arrête. Et d'ailleurs, même si tu te retrouvais dans cette situation, face au vrai cul d'une vraie femme qui déborderait vraiment de ton foutre et n'attendrait que ta bouche, tu sais ce que tu ferais? Tes mains se mettraient à trembler de façon grotesque, tu transpirerais sous ta chemise, tu perdrais le début de la pseudo-érection gélatineuse que tu aurais eu la chance d'avoir, et tu te réfugierais piteusement dans la salle de bain pour regarder des vidéos débiles et pas drôles sur le site du Huffington Post ou réécouter l'émission de Radio Lab consacrée aux tortues. Voilà ce que tu ferais. Et elle comprendrait quel imposteur tu es. Je ne porterai pas de chemise. Quoi ? Je ne transpirerai pas sous ma chemise parce que je n'en porterai pas. Est-ce que tu peux être salaud ? Arrête de me provoquer. Sur la sexualité, sur les blagues aussi, je voudrais savoir ce que vous attendez de votre lecteur, Jonathan Safran Foer, ou de vos lectrices, évidemment. Écrire le sexe, c'est difficile, et vous y allez vraiment, et c'est très très réussi. Il s'agit de provoquer aussi le lecteur, de toucher par la sexualité quelque chose de véritablement fort et qui concerne tout le monde, précisément.
I don't know that I thought a whole lot about...
Je ne pense pas y avoir tellement réfléchi
au lecteur. Female readers as being any different than
je pense pas que les lectrices soient tellement différentes des lecteurs. Je sais qu'il y a des moments où dans les textos hein, auxquels on a accès, que ce soit aussi extrême que possible, à quel point ils pouvaient aller, à quelles extrémités ils pouvaient aller.
Because
Parce qu'une des questions qui est soulevée dans le livre, dans le contexte de la sexualité, mais aussi dans celui des émotions amoureuses, dans le contexte de la religion, dans le contexte de l'école, de l'apprentissage, c'est quel est le pouvoir des mots. Beaucoup de ces mots que vous avez lus et les descriptions des actes sexuels s'appliquent à des choses qui ne sont jamais produites. Donc il y a une question, une discussion entre Jacob et Julia. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que les mots sont importants s'ils ne se réfèrent pas à des actions? Est-ce que les mots sont importants quand quelqu'un dit « j'ai ce type de relation à Israël, j'ai ce type de relation à mon épouse, j'ai ce type de relation à mes enfants », quand il y a l'absence des actions qui devraient les accompagner, qu'est-ce que ça signifie de dire « me voici dans l'esprit du titre, mais de ne pas être là en fait ».
Jonathan Safran-Foer, je voudrais qu'on parle du métier d'écrivain. Vous avez, je l'ai dit, été formé à l'écriture par Joyce Carol Oates, qui avait décelé votre potentiel. Et c'était à Princeton, les cours de Joyce Carol Oates. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Parce que vous savez qu'en France, on considère peut-être à tort que la littérature, l'écriture de littérature, ne s'apprend pas. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Joyce Carol Oates? Parce que maintenant, vous aussi, vous enseignez d'ailleurs le creative writing.
You interviewed her, you said, a couple
oui,
of weeks.
Oui, bien sûr.
Vous so l'avez interviewée, donc vous savez, c'est pas une personne qui parle beaucoup. C'est une présence inhabituelle.
Quiet,
elle est calme
and quite penetrating.
Et pénétrante.
We had many times in the classes that she taught.
Il y a eu beaucoup d'occasions en classe.
Not
où
because she said anything so mean,
les étudiants pleuraient, pas parce qu'elle disait des choses cruelles, mais en raison de la qualité de son calme. C'est très, très difficile à entendre. La leçon principale qu'elle m'a enseignée, ce n'est pas véritablement la leçon sur les pages, ce n'était pas contenu dans ses corrections à l'encre rouge, mais ce que ça signifie d'être un écrivain. Dans un sens plus large. Elle m'a dit une fois que la qualité la plus importante pour un écrivain, qu'est-ce qu'elle dirait, à votre avis? Quelle serait la qualité la plus importante pour un écrivain?
Regarder.
Regarder.
Non, non.
Mais c'est peut-être ce que j'aurais pensé aussi.
Now it's your turn to cry.
C'est à ton tour de pleurer maintenant.
She said the most important quality for a writer
la qualité la plus
energy.
Importante pour un écrivain, c'est d'avoir de l'énergie.
Energy on the sentence level,
de l'énergie
to make
au niveau de la phrase,
crisp,
pour que la phrase
new,
soit nette, nouvelle,
energy
révélatrice.
Level of a paragraph,
de l'énergie à l'échelle du paragraphe, d'avoir que les phrases se meuvent de façon dynamique, qu'il y ait une musique. De l'énergie au niveau du chapitre, pour structurer les choses, pour que le lecteur veuille aller à la fin du chapitre. Et de l'énergie aussi, quand on se recule un petit peu, entre les livres, une carrière où l'on s'efforce de faire des choses différentes.
Dernière question, Jonathan Safran-Foer, qui est très très importante, parce que aux États-Unis, il avait déjà de l'importance, mais le courant de non-fiction se développe d'ailleurs aussi en France. Et je voudrais savoir ce qu'en pense celui qui avait montré avec extrêmement fort et incroyablement près, avec ce petit Oscar de 9 ans dont le père trouvait la mort dans les attentats du 11 septembre. Vous aviez montré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir vécu des choses pour les mettre dans un roman et frapper l'émotion, l'imagination. Comment vous réagissez, vous, donc, face à l'importance de plus en plus considérable prise par la non-fiction aux États-Unis, le fait qu'on est censé raconter que ce qui nous arrive aujourd'hui en littérature?
Ils tentent de faire des choses complètement différentes.
Le
journalisme nous informe.
And fiction moves
la fiction
us.
Nous émeut.
The Polish poet, le poète Zbigniew Herbert.
Polonais Zbigniew Herbert a dit que l'imagination est l'instrument de la compassion. Donc, on doit faire confiance aux journalistes, on se repose sur les journalistes, plus aujourd'hui que jamais, pour nous montrer ce à quoi ressemble véritablement le monde. Et nous faisons confiance ou nous nous reposons sur les écrivains, les romanciers, pour nous montrer ce que nous sommes. Et l'interaction entre les deux, avec le moi du monde, c'est notre seul espoir.
Merci beaucoup, Jonathan Safran Foer.
Thank you so much.
Je rappelle le titre de votre dernier roman, Me voici, qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier, qui est traduit de l'américain par Stéphane Rock. Vraiment un très très bon livre sur la désagrégation d'un couple, extrêmement drôle aussi, extrêmement précis, presque torturant parfois. Vous le faites absolument merveilleusement. Donc merci, vous travaillez sur un nouveau livre ?
Yeah, I am.
Oui, je le suis.
Un roman ou... Le
problème avec moi, c'est que j'écris sur beaucoup de bouquins et que j'en écris pas beaucoup.
Très bien. Contrairement à Joyce Carol Oates.
Elle travaille sur beaucoup de livres et écrit beaucoup de livres.
Merci beaucoup.
Thank you so much.
Et je remercie Michel Zlotowski qui vous a interprété, si j'ose dire, pendant 7 heures.
You get the car, I'll get the night. Off you'll get the chance to take the world apart and figure out how it works.
On se quitte avec votre dernier choix musical, Built to Spill. Le titre c'est Car. Qu'est-ce que c'est que cette musique que vous avez choisie?
There happens to be a line in it that they repeat 6 or 7 times.
C'est des paroles qui répètent 6 ou 7 fois. Je veux voir les films de mes rêves.
I often find myself returning to that when
et
writing.
Je reviens beaucoup à ces choses-là.
I want to see it when you find out what comets, stars and moons are all about. I want to see their faces turn to backs and heads and slowly get smaller. I wanna see it now. I wanna see it now.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel à la réalisation et à la technique, Raymond Alboui. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr. Cette émission avec Jonathan Safran Foer.
Desert busy afternoon. I wanna see it untame itself.